Radio Orient présente Pluriel.
Vous êtes bien sûr Radio Orient, l'invité de Pluriel, Christian Baptiste, député apparenté socialiste de la deuxième circonscription de la Guadeloupe, ex-maire de Sainte-Anne, où vous êtes désormais notamment conseiller municipal. Bonjour Christian Baptiste.
Bonjour.
Et justement, les élections locales, les élections municipales, les 15 et 22 mars prochains, des élections qui arrivent dans un contexte de défiance vis-à-vis de la classe politique. On s'en souvient, en 2020, près de 60% des électeurs ne s'étaient pas déplacés au second tour. Alors c'était une période particulière, il y avait le Covid-19, il y avait le confinement. Mais est-ce que cette année, 6 ans après, vous craignez également une forte abstention liée à une forme de défiance vis-à-vis de la classe politique ?
Je crains une forte abstention liée effectivement à une crainte, à une défiance vis-à-vis de la classe politique, dans la mesure où, de plus en plus, notre classe manque d'exemplarité. D'exemplarité en ce sens qu'il y a effectivement des lois dans la gestion même. Nous avons parfois des gestions qui sont totalement irresponsables. Nous avons aussi des relations qui se nouent avec certaines personnes qui font que, malheureusement, nous ne sommes pas à l'abri. Et pour aller droit au but, je veux dire, moi de ma circonscription, je n'irai pas faire le tour de la planète pour prendre quelques exemples. Mais je vois tout simplement le maire de Saint-François, l'ancien maire de Saint-François.
Maire de Saint-François en Guadeloupe, l'ex-maire, oui.
Oui, qui a été rapidement condamné, je veux dire, après 4 ans, la justice est passée, avec des faits avérés. Et ça veut dire que ce sont des faits qui se sont produits quasiment tout de suite après son entrée en fonction. Et donc, ça m'interpelle. Bon, évidemment, il y a le cas du Rassemblement national, du Front national, où effectivement un jugement a été rendu, un appel a été fait. Mais là, les juges ont déjà constaté des faits avérés. Donc bon, maintenant on verra dans le fond.
Oui, vous le dites, Marine Le Pen a fait appel, elle reste présumée innocente, même si sa candidature à la présidentielle semble s'éloigner. Et qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs de cela ? La fin possible du clan Le Pen lors de l'élection présidentielle.
C'est le Rassemblement national qui est visé, hein. C'est parce que c'est un système qui a été mis en œuvre. Il peut ne pas y avoir Le Pen, mais je veux dire, mais c'est quand un parti, effectivement, utilise les deniers publics à des fins détournées et qui, au départ, dit, fait semblant de, je ne savais pas, j'ai fauté, mais quelque part, je ne savais même pas que je fautais. Bon, je veux dire, je crois que, la justice, ce qui est important, c'est que la justice doit se prononcer. La justice doit être sévère, tout purement et simplement.
On parle de défiance vis-à-vis des politiques. Si cette inéligibilité est confirmée, ne risque-t-il pas d'y avoir une forme de défiance vis-à-vis de la justice de la part de l'électorat lepéniste ?
C'est pas une affaire d'électorat lepéniste par rapport à la justice. Je crois que ça aurait été l'électorat, quelqu'un de la LFI ou de la droite. Il y a eu des cas, de toute façon. Il y a eu, effectivement, l'affaire Fillon, il y a eu l'affaire Cahuzac, il y a eu l'affaire de Levallois-Perret, j'ai oublié le nom du
Patrick Balkany.
Patrick Balkany. Bon, je veux dire, c'est pas une affaire, d'électorat de tel ou tel parti. C'est une affaire de justice. Et c'est une affaire de respecter les deniers publics. Pour moi, la situation se trouve là.
Qu'est-ce que vous dites à un citoyen qui hésite aujourd'hui à se rendre aux urnes lors de ces élections municipales, les 15 et 22 mars prochains ?
Le citoyen, il est à la fois contribuable, usager et électeur. Évidemment, en tant qu'électeur, il fait confiance à des hommes et à des femmes pour pouvoir gérer la cité. Dès lors que cette gestion est irresponsable, eh bien c'est normal qu'il y ait une réaction. Soit ce citoyen qui est électeur, eh bien se dit, voilà, on n'a pas convenablement géré les deniers publics, ou du moins, en tant qu'usager, je ne me retrouve pas, eh bien je vais vers un autre programme. Parce que l'électeur, il est très volatile, hein. Il est très volatile, je dis, il n'est pas.
Peut-être encore plus lors des élections municipales, hein, où il vote davantage pour un homme ou une femme que pour
exactement,
un parti.
Et pour une équipe. Et pour un programme, pour une vision surtout. Voilà. Et donc il y a cette réaction pour le citoyen qui remplit son devoir. Mais il y a aussi le citoyen qui à la limite, n'attend rien de la politique, je dirais, à titre personnel. Mais effectivement, se dit que bon, mais je suis usager, il y a des deniers publics, moi je paye des impôts, je veux que ces deniers soient gérés en toute responsabilité.
Vous avez été 8 ans maire de Sainte-Anne en Guadeloupe. Cette mandature a été marquée par de très nombreuses démissions de la part de maires, des maires parfois victimes de violences. On pense par exemple au maire de Carnac, Olivier Lepic, qui a été victime de menaces de mort. Est-ce que vous sentez une agressivité accrue de la part d'une partie des citoyens aujourd'hui en France, le maire qui est, comme il est régulièrement dit, à portée d'engueulade?
Dans l'Hexagone, oui, on le constate, vous avez pris des exemples, il y en a d'autres. Hein. Chez nous, dans nos territoires dits d'outre-mer, et particulièrement en Guadeloupe, ce n'est pas tout à fait le cas. C'est vrai que les hommes politiques, ou les hommes politiques, je dirais, peut-être moins les femmes, mais sont très décriés. Et d'ailleurs, on dit même que les femmes, effectivement, ont plus le sens de la responsabilité, parfois, que certains hommes. Mais en tout cas, chez nous, pas le cas. Bon, moi, je n'ai pas. Moi, j'avoue que j'ai une relation assez directe avec mes concitoyens au niveau de Sainte-Anne. Bon, très sincèrement, je n'ai pas à me plaindre. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui, quand je suis dans ma voiture, je suis systématiquement, il faut tout effacer chez nous, les vitres aussi teintées ou encore climatiseurs. Quand je circule, je ne circule pas avec des gardes du corps. Vous savez, dans notre culture, il y a les veillées, il y a les activités culturelles, les roses, ça
dure. Donc il y aurait une forme d'exception guadeloupéenne?
Je ne dirais pas une exception guadeloupéenne, mais je pense que dans nos territoires dits d'outre-mer en général, pour l'instant, on a une culture quand même qui est dans la proximité, et puis qui fait que bon, nous n'avons pas forcément ce sentiment. Personnellement, je n'ai pas ce sentiment d'être en danger. Et d'ailleurs, je circule à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure. Et puis voilà.
Alors Christian Baptiste, vous avez créé une commission d'enquête parlementaire sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales et la situation des mères protectrices. Cela touche tous les milieux sociaux, on le sait. La plupart des victimes sont abusées par un membre de leur entourage. D'abord, pourquoi il était important pour vous de créer cette commission d'enquête?
D'abord, c'est le résultat d'interpellations d'associations ou de collectifs d'associations. Premièrement, le CIFOM, le collectif des femmes d'outre-mer et du monde, présidé par Vanina Noël, qui est une association ultramarine, donc qui m'a interpellé. Donc on avait travaillé sur d'autres sujets, mais particulièrement sur ce sujet. Et on a organisé un colloque à l'Assemblée nationale sur faire tomber le silence de l'inceste, lever le tabou, libérer la parole. C'était ça.
Que la honte change de camp, bien entendu.
Exactement. Que la honte change de camp, plus précisément. Ensuite, fort de cela, j'ai posé une QAG, une question au gouvernement, et qui a donné une visibilité nationale à ce sujet. Et beaucoup d'associations m'ont été appelées, notamment Incesticide, qui est un collectif d'associations avec CM Gars, et qui est en relation avec 500 mères protectives. Je rappelle que les mères protectives, ce sont celles, effectivement, qui veulent protéger leurs enfants de leur père ou mère, hein, parce qu'en grande majorité, ce sont les mères qui sont les pères qui sont les auteurs d'agressions sexuelles incestueuses. Il y a une justice pénale, une justice familiale, il y a une affaire pénale qui est en cours, mais en même temps, évidemment, ça crée effectivement une séparation des parents, mais le père a le droit de visite. Mais un père qui est quand même auteur d'agression, en tout cas alerté, présumé, où il y a une procédure judiciaire, et parfois la mère ne veut pas, pour protéger l'enfant, ne respecte pas le tour de garde.
Et est-ce que l'on connaît l'ampleur de ce phénomène? Alors, est-ce que l'on sait aujourd'hui combien d'enfants sont victimes d'inceste, sachant que de très nombreux enfants n'en parlent pas encore?
Oui, selon la CIVIS, il y en a à peu près 160 000. Mais il y en a beaucoup plus que cela. Mais on a au moins ce chiffre de 160 000.
La CIVIS, hein, c'est cet organisme qui cette était commission. Dirigé par le juge Édouard Durand, mm-hmm. Qui a fait un grand travail sur ces questions. Il n'a d'ailleurs pas été renommé à la tête de cette organisation. Vous l'avez, j'imagine, déploré.
Oui, bien sûr. Alors, il est vrai que la CIVIS était quand même limitée, contrairement à cette proposition de résolution que j'ai, qui a été adoptée à l'unanimité, transpartisane, et qui débouche sur une commission d'enquête, oui. Qui vient, en plus, parce que la commission d'enquête a un pouvoir d'interrogation sous serment. Et le rapporteur peut demander, évidemment, des documents confidentiels pour pouvoir examiner l'objet de cette commission d'enquête, qui est le dysfonctionnement au niveau judiciaire les problématiques d'inceste parental.
C'est un phénomène qui est rarement mis en lumière. Avant de vous demander si l'État a, selon vous, saisi l'ampleur de ce phénomène, souhaiteriez-vous que l'inceste soit une cause nationale afin de sensibiliser l'ensemble de la population? On le sait, dans une classe de 30 élèves, eh bien, il y a au moins un ou plusieurs élèves qui sont victimes d'abus de la part, très souvent, de proches.
Alors, très honnêtement, j'espère que, de par la question au gouvernement que j'ai posée, je crois que c'était au mois de mai, ou de par cette proposition de résolution qui a été adoptée quand même par 514 députés sur 77, de par cette proposition de résolution débouchant sur une commission d'enquête en séance et évidemment en commission qui a été adoptée à l'unanimité, c'est une cause nationale. Et c'est une cause nationale qui doit se décliner dans chaque région. Et bien évidemment, je ne manquerai pas de décliner cette cause dans les départements dits d'outre-mer, dans les régions dits d'outre-mer, dans les territoires dits d'outre-mer, et particulièrement chez nous en Guadeloupe, qui d'ailleurs, le 10 janvier, où j'ai organisé un temps d'échange sur les siestes avec des spécialistes, mais aussi des témoignages. Donc, cette commission d'enquête et ces résolutions, effectivement, l'objectif, c'est de déboucher sur cette cause nationale. Mais une cause nationale, comme je dis, pour protéger l'enfant.
C'est la question, hein, que peut faire la loi pour protéger l'enfant ?
Alors, premièrement, la loi doit prendre les dispositions pour croire à la parole de l'enfant. C'est ça la grosse difficulté. Lorsqu'il y a un signalement de l'enfant, évidemment vis-à-vis de ses parents, un signalement à un médecin, même quand les enseignants ou les psychologues scolaires détectent sans même que l'enfant signale,
ce qui est le plus fréquent, il est rare que l'enfant le signale.
Exactement.
L'actualité Exactement. Est marquée par le salon de l'agriculture qui se tient du 18 février au 1er mars prochain. Alors, les agriculteurs dénoncent des revenus trop faibles, des normes jugées excessives, un sentiment d'abandon. Est-ce que la colère actuelle est le résultat de décennies de politiques agricoles incohérentes?
Oui, forcément, il y a de l'incohérence. Première incohérence, d'ailleurs, nous sommes allés à Strasbourg avec une délégation de parlementaires socialistes pour les soutenir la cause des agriculteurs et aussi de la politique de la PAC. Première incohérence, ce sont les normes. Dans le Mercosur, il y a un accord où on permet à effectivement des produits de rentrer sur les territoires avec des normes qui sont différentes des nôtres. C'est-à-dire, on n'a pas de traçabilité, il y a des pesticides qui sont utilisés par ailleurs et qui ne sont pas utilisés chez nous. Alors que, voilà. Donc ça, c'est une première cohérence. Donc il faudrait qu'il y ait une cohérence globale sur la traçabilité, sur la biodiversité, sur l'utilisation de produits qui causent. Et nous en connaissons quelque chose, notamment la chlordécone, chez nous, aux Antilles. Alors que, encore une incohérence, alors qu'aux États-Unis c'est interdit depuis 1972, alors qu'en France c'est interdit depuis 1978, eh bien vous avez des patrons, des grands patrons terriens qui viennent en France, à l'Élysée, pour dire voilà, de permettre l'utilisation du chlordécone, alors que c'est interdit. Et voilà encore une incohérence. Donc forcément c'est le résultat d'une série d'incohérences.
Pour boucler la boucle, hein, on a débuté cette émission avec les élections municipales. La stratégie du Parti socialiste, vous êtes député apparenté socialiste, elle est cohérente?
Nos réalités dans nos territoires d'outre-mer ne sont pas les mêmes par rapport à l'Hexagone. Et la politique macroniste est rejetée systématiquement depuis tantôt. Et donc nous ne nous retrouvons pas. Je suis rapporteur du budget outre-mer. Eh bien, aujourd'hui, je défends, et depuis que je suis député, qu'il y ait un cap budgétaire. Il n'y a pas de cap budgétaire pour l'outre-mer. Vous avez, d'accord, une mission outre-mer alors, de 3,5 milliards cette année, mais qui, en réalité, lorsqu'on enlève les crédits spécifiques de Mayotte et de Nouvelle-Calédonie, on se retrouve avec moins de crédits. Et ce que nous avons obtenu, c'est par nos amendements, nous les avons arrachés. Parce que le budget de Bayrou de base, il était irresponsable.
Merci. Christian Baptiste, vous êtes député apparenté socialiste de la deuxième circonscription de la Guadeloupe, ex-maire de Sainte-Anne, où vous êtes désormais notamment conseiller municipal, vous êtes aussi conseiller territorial, hein, c'est ce que vous nous avez dit.
Conseiller communautaire.
Et conseiller communautaire. Merci beaucoup, chers auditeurs, et très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.
C'était Pluriel,